ministre, bonsoir. Processus électoral en RDC, la CENI maintient le calendrier des élections urbaines, municipales et locales, telles que publiées. L'abbé Maloumalou affirme que la CENI a déjà présenté les budgets pour les élections globales et qu'elle n'attendrait que la réponse du gouvernement avant de publier le calendrier électoral global. Quelle lecture faire de la position de la CENI? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 23 juin 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jolino Makelele, député provincial élu de Kinshasa et les porte-parole du parti politique UNP. Monsieur Jolino, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jérôme Mbosso, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INEDIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de l'ONG Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Jérôme Mbosso, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Nous devrions avoir dans cette émission le professeur Onésime Koukatoula Falache, rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Malheureusement, il vient de se désister. La CENI promet de nous envoyer quelqu'un pour prendre part à ce débat. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Maurice de Kinshasa. Cette déclaration est dangereuse car elle défie non seulement les Congolais, mais également la communauté internationale qui exige de la CENI un calendrier global assorti d'un budget aussi global. Cependant, nous invitons la CENI à se mettre du côté du peuple. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La CENI maintient le calendrier des élections urbaines, municipales et locales, telles que publiées. Le président de cette institution d'appui à la démocratie l'a dit vendredi dernier à Kinshasa, au cours d'une rencontre extraordinaire entre son bureau et les partis politiques. L'abbé Apollinaire Maloumalou affirme que la CENI a déjà présenté le budget pour les élections globales et qu'elle n'attendrait que la réponse du gouvernement avant de publier le calendrier électoral global. On l'écoute au micro de Daskenzik Biataïoro.
Si vous nous dites sortez le calendrier global, eh bien, la CENI est obligée de demander au gouvernement d'utiliser l'outil de budgétisation pluriannuelle. Ça veut dire que la CENI soumet un budget global de l'ensemble du cycle électoral détaillé. Le gouvernement arrête le budget de chaque année. Ce budget étant arrêté, la CENI ne va plus revenir à la commission budgétaire chaque année. Elle considère comme acquis ces dotations-là et fort de cela développe son plan opérationnel. Je m'attends à 2015, à autant, à 2016, à autant. Et la CENI a déjà déposé au Premier ministre l'ensemble du budget global détaillé. Et au comité de partenariat qui réunit le gouvernement et les partenaires internationaux qui soutiennent le processus, il avait été décidé que la CENI donne le même budget pluriannuel aux partenaires, ce qui a été fait.
Rappelons qu'il y a eu une forte pression de la communauté internationale demandant à la CENI de publier un calendrier global. La dernière en date est celle de la Grande-Bretagne qui plaide aussi pour l'élaboration d'un calendrier électoral complet en République démocratique du Congo, incluant la présidentielle en 2016. L'ambassadrice Diane Corner a donné la position de son pays mercredi 18 juin à Kinshasa lors de la célébration de l'anniversaire de la naissance, de la reine Elisabeth. On écoute Diane Corner, ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, au micro de Michel Kissinda.
La politique du Royaume-Uni envers la RDC consiste ni plus ni moins à appuyer la transformation de ce pays en une nation stable et prospère. C'est la raison pour laquelle, en étroite collaboration avec la France et les États-Unis, nous usons de notre position au sein du Conseil de sécurité pour confier à la MONUSCO le mandat efficace dont elle a besoin. C'est également la raison pour laquelle nous appuyons les efforts de l'envoyé spécial Mary Robinson et les autres envoyés internationaux dans leurs efforts visant la mise en œuvre de l'accord cadre de Addis Ababa. C'est la raison pour laquelle nous appuyons fortement le renforcement de la démocratie dans ce pays. Dans ce cadre, nous aimerions que soit tracé un calendrier électoral complet, incluant jusqu'au présidentiel en 2016. Nous voudrions pouvoir appuyer les élections libres, transparentes et crédibles.
C'était la Diane Corner, ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, au micro de Michel Kissinda. Jolino Makelele, je rappelle que vous êtes député provincial élu de Kinshasa, vous êtes porte-parole de l'UNC, c'est un parti politique de l'opposition. Vous aviez des délégués à cette rencontre extraordinaire entre la CENI et les partis politiques. Comment vous analysez cette position de la CENI qui dit qu'elle va maintenir les calendriers tels qu'elle avait publié?
Je vais être peut-être brutal en disant que c'était une farce comme rencontre, une farce. Parce que vous venez d'entendre M. Malou dire qu'il a déjà déposé auprès du gouvernement le projet de budget qui devrait comprendre en principe toutes les séquences électorales. Mais et après cela, quand vous invitez les gens à venir autour d'une table, vous parlez, de quoi parlait-il? Et d'ailleurs, la rencontre s'est terminée quasiment en queue de poisson, puisque même l'ordre du jour présenté par M. Malou, c'était un ordre du jour, j'allais presque dire, adressé à des gens qui sont cocufiés, excusez-moi l'expression, puisqu'il parlait, entre autres, sur l'un des points, il parlait du programme des élections locales, municipales et urbaines, et ensuite ajouter à cela le processus global. Mais c'est quoi? Le processus global doit contenir les élections locales, municipales et urbaines. Ça, et dans notre entendement, le cycle qui est en cours, c'est le cycle commençant en 2011 pour se terminer en 2016. Ce cycle, c'est celui élaboré par M. Ngoï Moulunda. Même si on l'a fait partir, il y a des choses qu'il a laissées qu'on peut qualifier de bonnes. En l'occurrence, le processus lui-même, les séquences électorales. Et c'est-à-dire des séquences qui devaient commencer par les élections présidentielles et législatives, elles ont eu lieu, qui devaient être suivies par des élections provinciales, elles n'ont pas eu lieu, par la faute du gouvernement, et qui devaient s'achever par les élections locales ensuite, ou enfin. Mais ça, M. Malou nous ramène à l'époque où il était CENI.
Et donc, ce qu'on comprend bien, déjà au départ, les partis politiques et la CENI ne s'étaient pas mis d'accord par rapport à l'ordre du jour, déjà.
Oui, déjà l'ordre du jour était boiteux. Alors, pour revenir un peu à ce qu'il nous dit là à propos du budget, mais madame, je crois que M. Malou a dû sûrement lire attentivement la loi portant les finances publiques, la LOFIP. Et il aurait vu que les budgets de la nation sont des budgets réputés maintenant pluriannuels. C'est-à-dire que lorsque vous avez un budget, le gouvernement arrive en poste, il élabore un budget, c'est ce que M. Matata a fait, un budget qui commence depuis l'exercice 2011 jusqu'à 2016. C'est pluriannuel. Et donc, on saucissonne, si j'ose dire, chaque année, chaque exercice, une part pour l'année et l'exercice concerné. Et là, si vous regardez dans le budget que l'État a présenté, le gouvernement, il n'y a rien par rapport à l'exercice 2014, rien par rapport à l'exercice 2015, rien par rapport à 2016. Rien, je vous dis rien. Et donc, si c'était le cas, ça aurait été facile, on aurait pu prendre toutes ces séquences une à une, et puis on aurait pu donner à M. Malou. Mais je crois qu'il y a une combinaison maléfique.
C'est peut-être la raison pour laquelle la CENI ne s'est pas publié un calendrier global.
Non, mais gouverner, c'est prévoir, madame. C'est depuis 2011 que ce pouvoir savait qu'il devait y avoir des élections dans ce pays. Alors, que ne l'a-t-il fait? Non, s'ils ne l'ont pas fait, c'est entre autres parce que l'intention de tricher est là, madame. Tout ce qu'on voit là comme manigance, M. Malou est en train, j'allais pas se dire, de devenir le porte-voix de M. Kabila. Et on y reviendra par rapport à la perspective des élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect, chose que les concertateurs n'ont pas demandé, que M. Kabila a proposé lui-même, et M. Malou s'est accaparé de cette idée, sachant bien que cette idée devait aboutir à la révision de la Constitution, l'article 197, et que lui n'a pas de prérogatives en la matière. Donc vous voyez que c'est une combinaison extraordinaire, maléfique, entre le pouvoir en place et M. Malou. Donc je vous dis que s'il avait été animé par des bonnes intentions, M. Malou, ce fameux...
Le problème, c'est la CENI ou bien c'est le gouvernement? Puisque l'abbé Malou dit a déjà déposé sur la table du Premier ministre le budget global.
Madame, est-ce que vous comprenez quelque chose à cela? Monsieur Malou, le même, nous a invités à un dialogue, ce qui est vrai, ce qui était bon. Et ce dialogue devait porter sur la feuille de route. Mais quand il est arrivé au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, sa feuille de route comprenait déjà des orientations du président de la République, notamment l'hypothèse de l'élection du président, des députés provinciaux au suffrage universel indirect, c'est-à-dire qui impliquerait la corruption généralisée au niveau des conseils communaux. Et donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, après qu'il ait entendu une sorte de tollé général, il vient avec un autre projet, nous disant qu'il faut commencer par les élections municipales et urbaines, dont on sait la difficulté de les organiser sur le plan administratif et sur le plan financier. Mais il s'entête. Et quand il voit encore un deuxième tollé, il dit « Non, j'ai déjà présenté. » Mais qui a vu ça, ces projets? Mais il aurait dû donner au public, ou en tout cas à ceux qu'il a convoqués aux réunions, ce projet de budget, pour que les gens sachent...
Mais est-ce qu'ils ont demandé ce projet?
Mais c'est son rôle, madame.
Ceux qui ont participé à cette rencontre.
Mais bien sûr, puisque les gens, nous, à l'UNC, nous avons dit, il nous faut un projet incluant le processus global. Et donc, il faut nous montrer le budget que vous affectez à ce processus global. Et il appartiendra aux députés, au niveau de l'Assemblée, de nous dire... Quels moyens ils vont affecter l'argent, c'est lui, ce sont les propositions. C'est l'Assemblée à l'Assemblée de faire.
Et donc vous n'êtes pas sûr qu'il a déposé ça?
Madame, non seulement on n'est peut-être pas sûr, mais c'est une combinaison avec le gouvernement. Ce gouvernement, on va peut-être y revenir, madame, ce gouvernement n'a pas l'argent et il veut pas de l'aide extérieure. Il
Merci.
Veut chasser les témoins gênants, la communauté internationale, pour organiser les élections, vaille que vaille, et tricher.
Merci, Jolino Makelele. Jérôme Mbosso, je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT. Vous êtes aussi coordonnateur de l'ONG Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette déclaration de l'abbé Malo Malo?
Merci, madame. Avant de répondre à votre préoccupation, je tiens à saluer tous les nombreux auditeurs de la radio de la paix, Radio Okapi, et honorable Jolino qui est à ma droite. Et tout en saluant aussi notre compatriote, le vice-président de la, aussi c'est le vice-président, quelqu'un de la CENI, qui devait être avec nous pour nous donner d'autres éléments de complément
d'information.
Le rapporteur de la CENI, je m'excuse. Mais je pense que là où il est en train de nous suivre, peut-être il peut réagir aussi par texto. À la question que vous nous posez de savoir la déclaration faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Abbé Apolline Malmalo, que je salue en passant, et c'est une question qui préoccupe tout le monde, parce que à l'heure qu'il est, nous, au niveau de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, nous avons produit un vade-mecum du procès électoral 2013-2016. De ces vade-mecum, nous avons mis trois séquences. La première séquence, c'est qu'il ne va pas dans le procès 2013-2016, ce qu'il faut faire pour ce processus et ce que nous devons attendre des autres. Et ce qui ne va pas, nous disons, madame, quand on organise les élections, monsieur l'abbé le sait très bien, il faut tenir compte de la planification. Or, ces élections, que les impacts locales et ainsi de suite, souffrent de déficit de planification. Quand on doit faire planification, on doit faire intervenir deux paramètres, le paramètre facteur temps et le paramètre moyens financiers. Le paramètre facteur temps, il a présenté Monsieur le Président de la CENI a présenté sa feuille de route en date du 30 janvier 2014 devant la représentation nationale où il a demandé même un certain nombre de choses. Il a demandé aussi l'argent, le budget. En ce qui concerne les élections pour 2014, il a demandé 32 millions. Il a demandé 323 125 000 $. Il a demandé ça. Mais quand on lui a donné, l'Assemblée nationale s'est réunie, on lui a flanqué 166 millions de dollars. Et 166 millions de dollars, madame, je vous le confirme, ce sont des promesses. L'argent de la CENI ne peut pas. Aujourd'hui, monsieur Labbé nous suit, le bureau de la CENI nous suit, il ne peut pas dire qu'ils sont déjà en position de ça. On n'a pas encore.
Mais alors qu'on a suivi, il avait mal, il avait dit qu'ils avaient déjà les 166 millions.
Non, madame, je vous dis non, allez au ministère des Finances, qu'on fasse voir les écritures où on a décaissé les 166 millions de dollars pour l'organisation des élections. Parce que c'est avec cet argent que la CENI va faire face aux rémunérations, au fonctionnement, aux opérations. Et on va
investir. Et donc il n'y a même pas encore l'argent pour l'organisation des élections municipales urbaines.
Madame, même pour l'administration de la CENI, la CENI, quand elle a présenté sa feuille de route au niveau de l'Assemblée nationale, la CENI a dit que jusque-là, elle est en train de se chercher pour asseoir l'administration électorale. Il a commencé par la ville de Kinshasa, par le Bakongo.
Congo, Équateur une partie, Bandundu et le reste des provinces. La CENI n'a pas encore pu asseoir l'administration électorale. Si aujourd'hui on dit, on déclenche l'organisation des élections sur base que l'administration électorale de CENI va faire, ça c'est du point de vue de fil organisationnel, moyens financiers, facteur temps, madame. Nous sommes déjà en retard de plus de 10 mois. La CENI a été installée en juin de l'année passée et jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Les opérations liées à l'organisation des élections, soit locales, soit d'invitation nationale, ou l'élection présidentielle de 2016, rien n'est encore fait. Il y a déjà un retard. C'est consommé. Parce qu'au niveau de la ligne élite, au niveau de Haïti, nous avons tiré la sonnette d'alarme quand on était encore à 6 mois de retard. Parce qu'on attendait que la session plénière de l'Assemblée nationale de mars 2013 devait accorder l'urgence en ce qui concerne la votation des textes de loi liés à l'organisation des élections. Or, le gouvernement est parti déposer les quatre textes de loi à 4 jours de la clôture de la session de mars. Et on a clôturé la session, madame. Aujourd'hui, encore on va passer ces textes de loi. La CENI dit qu'il va organiser les élections, mais avec quel cadre législatif? Il n'en a pas. La CENI va dire organiser les élections aujourd'hui avec quel argent qui nous montre? Est-ce que le finance lui a déjà donné l'argent? L'administration de la CENI elle-même souffre même des arriérés. Il y a le personnel qui n'est pas encore payé. Le gouvernement n'a pas voulu disponibiliser.
Le calendrier présenté par l'abbé Malouma, le risque de ne pas être respecté.
Mais soit il ne sera pas respecté, disons les choses telles qu'elles sont. Demandez au ministre de finances, il a débloqué sur les 166 millions, il a déjà décaissé combien? Combien vous lui demandez? Parce que notre combat était que la CENI ait l'autonomie, la gestion de ses moyens disponibles à chaque instant pour intervenir sur le terrain. Et pour faire, jusqu'à présent, la CENI n'a pas l'argent. Il y a un autre facteur moyen financier, je vais le dire, facteur temps, consommer plus de 10 mois. Si on ajoute, on va nous jouer les textes de loi qui sont encore qu'on a déposé à l'Assemblée nationale, madame, quand est-ce que ça va être discuté? Quand est-ce que ça va être promulgué? Il ne suffit pas de promulguer des textes de loi. Il suffit de comment vulgariser pour que les agents électoraux, pour que la population, les acteurs politiques puissent s'imprégner de l'esprit de la lettre de ces textes de loi. Madame, ça va nous prendre encore 3, 4, 5 mois. Et à quand puisque la CENI pouvait dire, s'il était déjà dans sa poche, l'argent, les 166 millions, mais les 166 millions sur 320. Donc il lui manque 167 millions. Qui est cette famille politique, majorité opposition, qui est en train de battre campagne pour qu'on puisse mobiliser l'argent pour la CENI? Il n'y a personne, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de textes de loi liés. Donc,
il n'y aura pas élection.
Il n'y en aura pas, madame, il faut dire les choses. Un politicien a peur de le dire, mais du point de vue technique, il n'y aura pas élection en 2015, il n'y aura pas élection en 2016. Il faut trouver une solution.
Alors, c'est quoi la solution, Jolino Makelele?
Mais la solution, nous l'avons toujours dit et préconisé, c'était un dialogue tel que initié d'ailleurs par l'accord cadre d'Addis Abeba, par la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Et ce dialogue, si j'ose dire, la promotion de ce dialogue a été réservée à l'envoyé spécial du
un dialogue pour dire
pour,
quoi
pour voir dans quelle mesure la CENI, qui est habilitée à faire ce processus électoral, puisse nous dire quelle est la possibilité de faire effectivement ces élections et avec quels moyens, dans quel délai. Nous savons, mon collègue ici de gauche, M. Bonsoir, vient de nous le démontrer, il sera difficile de tenir le calendrier de M. Malumalu. Difficile. Et surtout qu'ils veulent, ils se sont concocté une stratégie, celle de se brouiller avec le monde occidental qui pourrait financer ces élections ou venir en appui à ce financement, de manière telle que les choses n'aillent pas bien. Donc, pour nous, nous avons dit à M. Malumalu, essayez d'avoir un processus consensuel, c'est-à-dire vous amenez les gens de la majorité que vous connaissez assez bien, et vous amenez les gens de l'opposition, la société civile, nous nous mettons tous autour d'une table, dans l'intérêt bien compris de ce pays, pour nous dire dans les délais qui nous restent par rapport aux obligations constitutionnelles, des délais qui sont dirimants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger la date, par exemple, du 19 décembre 2016. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et nous avons dit...
Et vous pensez qu'une solution sortirait de ce dialogue?
Oui,
est-ce que chacun ne risque pas de camper sur sa position? L'opposition veut ça, la majorité voudrait ça, la société civile...
Vous allez dire que c'est du manichéisme auquel je me livre, mais quand vous voyez une situation comme celle-ci, chacun sait que les élections provinciales, sont plus faciles à organiser aujourd'hui que les élections locales, municipales et urbaines. Pourquoi M. Malumalu et la majorité présidentielle s'entêtent-ils à se cramponner au processus commençant par les élections les plus difficiles à organiser parce que les gens ne sont pas prêts? Alors que les élections provinciales seraient plus faciles. Mais chacun sait que les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont un mauvais bilan. Et les gens souffrent, ils n'ont pas de quoi manger, les salaires ne sont pas là, le chômage bat son plein, les étudiants n'ont pas de bourse, etc. Et donc, c'est difficile d'aller voir le peuple dire que nous avons réalisé quelque chose. Et donc, sachant cela, les gens ont peur d'aller aux élections libres, transparentes et crédibles. Et c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces manœuvres. Nous, nous disons, dépassons-nous, nous sommes des Congolais, nous, si nous avons l'amour du Congo, voyez, je paraphrase quelqu'un en disant cela, si nous avons tous l'amour de ce pays, nous devons nous mettre autour d'une table et dialoguer. Dialoguer sincèrement.
Dialoguer, c'est-à-dire pour trouver un consensus sur le calendrier.
Un calendrier global et consensuel.
Mais
et
on a suivi l'abbé Malumalu qui a dit que le calendrier électoral ne peut jamais être consensuel.
Non, madame. Vous savez, d'abord, il faut quand même partir d'un primat. Le calendrier dont M. Malumalu veut se prévaloir, c'est-à-dire le calendrier commençant par les élections municipales, locales et urbaines, c'est l'arriéré de M. Malumalu lui-même. Pourquoi il ne l'a pas organisé à son temps? M. Ngoï Moulunda est arrivé, il a commencé un processus. C'est un cycle qu'il a commencé, M. Ngoï Moulunda. Ce cycle a commencé par les élections présidentielles et législatives en 2011. Quelle que soit la manière dont ces élections ont été organisées, elles ont été organisées. La suite, c'était des élections provinciales, madame. Mais pourquoi elles veulent maintenant, et après les élections provinciales, je rappelle à nos auditeurs, que ce cycle comprenait donc les élections présidentielles et législatives en 2011, qui devaient être suivies des élections provinciales, et enfin par des élections locales, municipales et urbaines. Mais pourquoi diable s'entêter à faire ces élections locales urbaines avant toutes les autres, avec les préalables que vous connaissez, les recensements, c'est-à-dire rendre le processus intenable? En réalité, j'ai l'impression, nous avons l'impression que M. Malumalu est en train d'obéir à la voix de son maître et ne veut pas des élections sérieuses. C'est pour ça qu'entre autres, qu'il est buté à ce problème. Et puis, il y a un problème financier, madame. Ce gouvernement, il faut quand même qu'on soit sérieux. Ce gouvernement, vous avez entendu sûrement le compte rendu de la Troïka, la fameuse Troïka gouvernementale. Quelle est la situation, l'état des finances de la République au premier trimestre 2014? Nous sommes sur une pente d'une croissance de 8,1% au lieu de 10% entrevue. Madame, quand vous avez un point de croissance en moins, vous avez près de 300 millions de dollars qui vont partir. Vous comprenez? Donc les recettes fiscales, les recettes globales ne rentrent pas comme on devait s'y attendre. Là où on prévoyait une croissance de 10%, donc l'argent n'est pas disponible, alors que si on veut organiser des élections sérieuses provinciales, cet argent sera moindre, le coût de ces élections sera moindre par rapport aux élections municipales, et ça nous permettra d'aller aux élections présidentielles et législatives dans les meilleures conditions financières.
Merci Julien Makilile. Jean Bosso, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Je suis à Bukavu, au site Kivu. Je pense que la CENI aurait mieux fait de se plier à la volonté de la majorité des Congolais que de camper sur une position impopulaire, quoique soutenue par l'actuel pouvoir. Car les grandes puissances n'attendent qu'un calendrier global pour financer le reste du processus. Le prétexte budgétaire n'est qu'un échappatoire.
Comment vous répondez à cet auditeur, Jérôme Bonceau? On sait qu'il y a eu une forte pression quand même de la communauté internationale pour que la CENI publie un calendrier global, mais malgré toute cette pression, la CENI maintient le calendrier qu'il avait publié.
La CENI, en tant qu'une structure technique, se réfère à ses aspects techniques, mais les élections revêtent deux caractères, caractère technique et politique. Et que, quand on dit caractère politique, on doit tenir compte de l'opinion. La grande majorité de l'opinion veut à ce qu'on puisse dégager un consensus qui consisterait à ce qu'on élabore un calendrier global. Un calendrier global, pourquoi, madame? Parce qu'il y a un enjeu majeur de ces élections, c'est printemps de 2016, la date du 19 décembre 2016, fin mandat du président de la République. Et les uns et les autres exigent, quand bien même on a présenté ce que la CENI a présenté en attendant que l'Assemblée nationale puisse lever les options sur les deux hypothèses que la CENI avait présentées devant l'Assemblée nationale en date du 30 janvier 2014, à ce moment-là qu'on donne les chiffres encore. Allons-nous commencer à faire les préparatifs de la députation nationale et de l'élection présidentielle? Parce que nous avons encore un problème, un grand défi sur le fichier électoral. Comment fiabiliser ce fichier électoral qui garde encore les revues, les déchets de 2006, le déchet, c'est-à-dire le doublon de 2011, tout ce doublon. Nous avons eu un témoignage d'un ancien vice-président de la CENI qui a dit nous avons, ils ont hérité dans leur fichier, dans leur serveur, le plus de 1,5 million de doublons qu'on n'a pas eu à évacuer. Ils ont doublé aussi d'autres doublons de 2011. On est à peu près dans les 3 millions de 2 millions. Étant donné que le fichier n'est pas audité, étant donné qu'on n'a pas audité le serveur, le logiciel de détection de doublons, madame, il y a un problème de produire un fichier électoral fiable, des listes électorales fiables, étant donné que le fichier n'a pas été audité. C'est ce que nos partenaires, l'Union européenne a dit, il faut qu'on dégage un consensus sur l'audit du fichier, l'audit externe, nous disons bien, qu'on puisse voir quel prestataire qui pourrait venir mener cet audit, madame. Donc ici, vous voyez qu'il y a tout un problème. On ne peut pas dire, qu'est-ce qui va se passer le 19 décembre, si les élections ne sont pas organisées au regard des exigences constitutionnelles. Il faut 3 mois d'organiser les élections, enfin, fin mandat, enfin, 19 décembre. Donc, au mois de septembre, on doit déjà commencer la préparation. C'est pourquoi les uns et les autres exigent le calendrier global pour voir l'enjeu majeur. Parce que si on ne passe le cap du 19 décembre, fin mandat du président de la République, et qu'il n'y a pas eu élection, il y aura des débats, nous allons nous trouver dans la tourmente, la turbulence sociopolitique. À ce moment-là, ça va nous ramener à ce que l'un de 5 envoyés spéciaux a dit, attention, nous devons faire attention, parce que nous ne pouvons pas, il a dit ceci, les élections mal contestées pourraient nous coûter encore plus cher, c'est-à-dire nous, communauté internationale, et ils ont encore ajouté, le Congo peut exploser à tout moment si les élections sont mal organisées. Donc ici, notre compatriote du Nord qui vient d'intervenir, il a raison.
Mais par rapport à l'aide de la communauté internationale, on a suivi la Bémalou-Malou, pour lui, c'est d'abord le gouvernement, et la communauté internationale vient après, elle n'est pas obligée financer ou d'apporter son appui financier.
Vous savez que l'organisation des élections relève de la souveraineté d'un État. Et un État orgueilleux et souverain ne peut pas recourir au financement extérieur. Mais ici, la CENI a demandé 322 millions. On lui a promis 166 millions, madame. Est-ce que le gouvernement a débloqué tout l'argent décaissé pour rendre la CENI opérationnelle, autonome du point de vue financier? Non, le gouvernement fait des promesses. En comptabilité, on ne peut pas passer les écritures. Tu vois, des promesses. C'est d'ici, nous disons, est-ce qu'il y a la volonté de notre gouvernement pour organiser les élections? Pourquoi nous disons, est-ce que le gouvernement attendait que 4 jours qu'on clôture la session de mars pour aller déposer 4 textes de loi pour que chaque type d'élection ait sa loi électorale et qu'à chaque loi électorale qu'on puisse y annexer ce qu'on appelle le texte de mise en œuvre de la loi électorale de répartition des sièges. Et avec quelle administration électorale nous allons faire tout? 3 lois électorales et 3 textes de répartition des sièges. Mais c'est une organisation électorale par essai et erreur. Et même le président Labbé ne maîtrise, peut-être à moins qu'il y ait un son qui soit prophète pour dire on va aboutir. Mais on organise ces élections par essai et erreur. Mais quand ça va craquer, sans consensus électoral, sans consensus politique, est-ce qu'on va s'en sortir? Il ne suffit pas de courir, il suffit de voir est-ce que je cours, est-ce que je vais arriver au point, est-ce que je vais avoir le résultat escompté. Le résultat, c'est quoi? C'est la pacification des esprits des élections. Nous allons entrer aux élections avec des conflits ou bien nous allons résoudre les conflits. Et qui va résister, madame? Nous avons vu sous notre cieux où on a organisé les élections contestées et le pays a pris feu. Le prix est plus fort. Est-ce que nous ne pouvons pas le souhaiter dans notre pays? Les uns et les autres, même la CENI a tout intérêt à mettre de l'eau dans son vin pour voir où se penche la majorité. Pas simplement dire moi, j'étais. Non, on doit se quand même s'humilier un tout petit peu là-dessus.
Merci, Jérôme Mbosso. La réalisation me signale qu'on n'aura finalement personne de la CENI. Mais je rappelle quand même qu'on devrait avoir le professeur Onésime Koukatoulapalage, rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, qui s'est désisté jusqu'à quelques secondes du début de l'émission. Alors, on va prendre à la place le professeur Alphonse Maïndo, qui est politologue, professeur à l'université de Kisangani de Sorbonne Paris A. Il est analyste. Professeur, on vous remercie d'abord d'avoir accepté de participer à cette émission. On vous a pris à pied levé. Quelle est votre lecture de la position de la CENI qui décide de maintenir le calendrier des élections urbaines, municipales et locales tel que publié?
Oui, merci beaucoup, madame, de me donner la parole. Je pense que c'est une situation qui pourrait être lourde de conséquences si on n'essaie pas de prendre en compte les considérations des uns des autres par rapport au calendrier électoral. Je rappelle que il y a un certain nombre d'élus qui ont déjà trop largement dépassé leur mandat. Je pense en l'occurrence aux sénateurs, je pense aux députés provinciaux et aux autorités provinciales qui ont très largement dépassé. Donc on ne peut pas continuer à ignorer cette dimension-là. Et si on ignore ça, ça peut créer des frustrations et ça peut faire replonger notre pays dans une situation plus dramatique. Alors, il me semble que le gouvernement connaissait déjà les échéances électorales. Le gouvernement doit savoir ça, parce que on peut voir des échéances dans la Constitution. Tous les 5 ans, il y a une élection présidentielle, élection législative. Donc, le gouvernement doit avoir prévu dans son budget, préparé pendant ces années-là pour faire les choses correctement. Et si le gouvernement ne peut pas faire ça, il pourrait demander l'appui des partenaires extérieurs pour l'aider à réaliser ces élections-là. Ça fait partie des obligations de l'État, franchement, qu'on reconnaîtra l'État. Et la Commission nationale électorale indépendante ne peut pas se dédouaner en disant que comme je n'ai pas encore de budget, je ne peux pas faire de calendrier. C'est en faisant un calendrier, en le mettant sur la page publique, qu'elle pourrait ainsi faire une espèce de pression morale sur l'autorité gouvernementale pour dire, voilà, moi j'ai fait mon travail technique, c'est à vous maintenant de me donner les moyens. On ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il n'y a pas encore de budget voté pour dire, non, je ne présente pas mon calendrier. Elle doit présenter son calendrier pour que le gouvernement soit mis devant ses responsabilités. À mon avis, c'est une fuite en avant de la part de la CENI que de prétendre ne pas pouvoir faire un calendrier, soumettre ça au public s'il n'y a pas de budget.
Le calendrier a déjà été soumis, le calendrier global, selon la vieille Malou, a déjà été soumis au Premier ministre.
Mais non, le Premier ministre, il ne faut pas seulement remettre ça au Premier ministre. Les élections dans ces pays ont été voulues dans le sens où ça doit être une affaire qui soit discutée. On ne peut pas imposer un calendrier qui soit favorable à un groupe ou à un autre. Voyez-vous, donc il faut que le calendrier soit discuté par l'ensemble des citoyens congolais, qu'il y ait un débat autour de la question pour savoir quel est le moment qui convient le mieux pour tous. Et on ne peut pas garder ça comme un secret qui est gardé par un groupe au détriment des autres. Voyez-vous, pour que les gens puissent se préparer. C'est quand même une échéance importante pour les pays, et il y a des gens qui ont des ambitions, qui aimeraient participer à ça. Si on les avise pas à l'avance pour qu'ils sachent, ça sera dans un mois ou dans 2 ans ou dans 24 mois, pour qu'ils se préparent en conséquence, c'est pas du tout une bonne stratégie politique. Et en plus de cela, il y a des suspicions qui pèsent sur l'autorité nationale gouvernementale, comme quoi on chercherait à prolonger les échéances électorales, à dépasser les délais constitutionnels qui sont prévus pour pouvoir créer une nouvelle transition et tout ça. Alors, il n'y a qu'un seul moyen d'éviter, si vous voulez, de couper court à ces spéculations de tous ordres sur les intentions réelles ou non du tout du gouvernement pour dire qu'on veut prolonger les mandats de telle ou telle personne. Donc, ce serait bien de faire vite et de donner le calendrier. Nous sommes en 2014, il ne reste plus que 2 ans voyez-vous, pour qu'on puisse avoir les nouvelles élections présidentielles et législatives. On ne peut pas attendre indéfiniment avant de publier ce calendrier-là. Pour beaucoup de gens, c'est suspicieux et c'est tendancieux, ça peut être mal vu. Et or, quand on sait que notre pays, c'est un pays qui est en gestation et qu'il y a encore beaucoup de sources d'instabilité, il ne faut pas donner de l'eau au moulin de ceux qui veulent voir le Congo déstabilisé, retomber dans l'instabilité politique, en ne respectant pas les engagements pris solennellement devant le peuple à travers les négociations, à travers le calendrier qui doit être fait.
Alors, professeur Maïndo, on va prendre pour vous cette réaction qui vient de Kisangani dans la province orientale.
Miroudi Nestor, j'appelle depuis Kisangani à province orientale. Je voudrais exhorter la Commission électorale nationale indépendante d'être un peu flexible par rapport aux suggestions et remarques de la part des partis politiques, des organisations de la société civile ainsi que de la communauté internationale pour que la CENI puisse vraiment, s'il y a moyen, puisse réviser les calendriers. Ce n'est pas donc impossible d'éviter ainsi donc les élections agitées comme on a vécu pendant les élections de 2006 et de 2011.
Alors cet auditeur vous rejoint un peu dans vos analyses, le professeur Maïndo.
Oui, tout à fait. En fait, c'est la crainte de nous tous ici, c'est de voir que on voudrait amener les gens dans une situation où il y aura une forte pression, où il y aura encore des contestations. Si on veut avoir un pays apaisé qui se consacre à la reconstruction nationale et tout ça, il faut pouvoir anticiper, parce que gouverner, c'est prévoir, dit-on. On sait pertinemment bien qu'est-ce qui pourrait arriver. Alors, il faut prévoir, il faut éviter d'aller vers ce qu'on prévoit déjà, qu'on peut imaginer par rapport à ça. Je pense que l'intervenant de Kisangani a bien compris ça. Et c'est la préoccupation de la majorité des citoyens congolais. C'est qu'on ne veut plus que notre pays puisse replonger dans l'instabilité. Et un moyen d'éviter ça, c'est de faire les élections dans la transparence, c'est de faire le calendrier. Ça coûte quoi de publier un calendrier? Ça coûte quoi? Ça ne demande pas d'avoir un budget, ça ne demande pas des autorisations spéciales, au moins au niveau du débat. Voyez-vous, on peut faire ça. Un service technique doit pouvoir être en mesure de mettre ça à disposition des gens. Voyez-vous.
Merci, professeur. On vous redonne la parole tout à l'heure. Jolino Makelele, il y a une réaction, je voulais dire, pour vous, qui vient de Mbandaka, dans la province de l'Équateur.
Merci, Mongo Manzongo, depuis Mbandaka. Maintenir les calendriers des élections urbaines et municipales et locales, c'est bon. Nous demandons à la CENI et au gouvernement de mettre en place des conditions démocratiques. Les représentants de la population doivent avoir une légitimité. Ces élections ne soient pas triquées. C'est pour dire quoi? Comme la RDC a toujours été corrompue dans tout et dans n'importe quelle chose, nous avons peur que ces élections municipales puissent être triquées aussi. C'est pour dire quoi? Il faut que ces élections passent dans les conditions exigées par la démocratie.
Alors, honorable Jolino, comment vous répondez à cet auditeur qui estime que c'est bien de maintenir ce calendrier électoral, ce calendrier des élections municipales, mais là, à condition qu'elles se déroulent dans des conditions démocratiques?
Oui, mais quelles autres conditions démocratiques veut-on avoir en dehors de celles qui sont prévues par les textes et par les résolutions qui ont une force obligatoire pour la République démocratique du Congo? Je rappelle quand même qu'en vertu de la résolution 2098 des Nations Unies, le point 14b, il est donné mandat aux représentants du secrétaire général des Nations Unies de promouvoir un dialogue transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation, et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. C'est-à-dire que la communauté internationale a pris fait et cause du fait que les élections législatives et présidentielles dans le cycle allant de 2011 à 2016, ces élections ont eu lieu. Et que la suite, c'est l'organisation d'élections provinciales et enfin locales, crédibles et transparentes. Ça, c'est dans la résolution 2098 sollicitée par l'État congolais et approuvé par le Conseil de sécurité. Donc, il y a une force obligatoire supérieure même à nos lois, cette disposition. Et au lieu de s'y engouffrer, M. Malou Malou, commandité par le pouvoir en place, est en train de faire ce que la communauté congolaise en général, vous avez entendu les auditeurs, même si ce n'est pas assez représentatif, tous les Congolais sont contre la plupart, contre ce calendrier. Les partis politiques, en tout cas de l'opposition, sont contre. La communauté internationale est contre. Il n'y a que la majorité présidentielle qui appuie M. Malou Malou dans ces dessins-là. Madame, pourquoi vous mettre tout le monde à dos? Vous pensez vraiment que tous ces gens-là... Et je vous lis d'ailleurs une phrase prononcée par Madame l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Kinshasa à l'occasion de l'événement auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Elle a dit ceci, elle veut que ce pays puisse se transformer et en une nation stable et prospère. Stable, madame, ça exige un consensus. C'est-à-dire que tout le monde aille de l'avant en ce qui concerne la démocratie, la sécurité, etc. Tel que cela d'ailleurs a été dit dans la résolution 2098. Et ils veulent appuyer tout cela et exigent c'est pour ça qu'ils exigent un calendrier complet.
Merci.
Et donc, madame, il faut faire très attention. Ce sont les fauteurs de troubles qui sont...
Alors que nous, on reste au moins de 3 minutes, oui. Moins de 4 minutes pour mettre fin à cette émission. Je veux vous demander de conclure. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire à la CENI pour une sortie, pour sortir de cette situation ou pour des élections apaisées?
Oui, madame.
Brièvement,
j'ai dit seulement, chacun a vu la mauvaise foi du gouvernement, qui ne sait pas mettre l'argent à la disposition de la CENI en temps utile. Qui ne sait d'abord pas qu'il n'a pas d'argent, qui ne sait pas mettre l'argent en temps utile, et qui donc veut tripoter avec plusieurs lois pour organiser ces échéances électorales. Nous disons, il faut un consensus, un dialogue entre différentes parties, et laisser la communauté nous assister, parce qu'elle nous assiste déjà là où nous sommes.
Merci,
faibles.
Merci, honorable Jolino Makelele. Jérôme Bosso, comment sortir de cette situation?
Nous devons nous mettre autour d'une table pour dialoguer. Du dialogue, nous allons dégager un consensus. Du consensus, nous allons dégager la confiance dans le processus électoral. Parce qu'à l'heure qu'il est, le facteur temps est devenu notre ennemi. Nous avons déjà accusé un grand retard qui ne va pas nous permettre de nous rattraper, à moins qu'il y ait un miracle. Mais organiser les élections dans des conditions où les uns ne sont pas disposés à suivre le processus, à suivre le chemin tel que prévu, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que l'organisation technique doit être privilégiée que l'organisation des élections sur base d'un agenda politique. 2011, nous avons organisé les élections politiques. Ça a donné les résultats que ça a donné. Ça a été une débâcle organisationnelle des élections. 2014, le budget qu'on attendait, 166 millions, j'ai dit, je le répète, le gouvernement n'a pas décaissé l'argent pour la commission électorale indépendante. La commission accuse déjà des problèmes du côté moyens financiers. On n'en a pas et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons dégager un consensus. Mais celui-là qui est en tête la CENI, d'aller de l'avant, dans un environnement contesté, pour organiser les élections contestées, ils en paieront le prix, ils en répondront devant l'histoire. Et nous pensons que techniquement, il est déjà consommé, que nous ne pouvons pas organiser les élections dans le délai constitutionnel.
Merci Jérôme Mbosso. Professeur Alphonse Maïndo, un mot en guise de conclusion. Quelle est la solution pour sortir de cette situation? Un dialogue?
Je pense qu'il faut, sans doute un dialogue, mais il faut surtout un débat public. Voyez-vous. Si on veut construire une démocratie, on ne peut pas la construire sans ouvrir un espace de discussion où tous les citoyens peuvent participer, pas seulement les politiques, mais aussi tout l'ensemble des citoyens, la société civile, peuvent chacun donner ses idées. Et j'invite donc les gouvernements qui a comme leitmotiv la bonne gouvernance. Eh bien, la bonne gouvernance suppose également la transparence. La transparence sur toutes les questions, et en particulier là, il s'agit d'une question fondamentale qui est fondatrice de la démocratie, c'est-à-dire les élections, les choix de ceux qui doivent assurer la décision du pays. Donc, merci. On doit porter ça. Le gouvernement, donc, au nom de la transparence, de la bonne gouvernance, doit porter, si vous voulez, adopter, mettre les calendriers sur la table publique.
Merci, professeur.
Et que la CENI aussi doit assumer ses responsabilités en la matière.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer et réaliser cette émission. Guy Maté, Alain Rung, sous la supervision de Pelé Kipelamundo. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde au micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.